Le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Décibel. Émilie Mazoyer.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Décibel. J'espère que la semaine a été bonne. Et puis si c'était pas terrible, écoutez les amis, dites-vous que vous avez fait le plus dur. On est vendredi soir. Au rayon anniversaire, nous célébrerons un des plus grands guitaristes de tous les temps qui a notamment prêté ses talents à Pink Floyd. Oui, c'est l'anniversaire de David Gilmour. Donc à la fin de l'émission, un petit Pink Floyd. Jean Felsine fait ses adieux à son groupe Mustang et il leur a écrit une chanson d'adieu. C'est beau et triste, comme une histoire d'amour au long cours mais qui s'arrête. Ce sera notre coup de cœur découverte de ce soir. Un blind test autour du prénom Marie. Mary, Maria. Très apprécié par nos amis artistes. Alors si vous avez envie de jouer au blind test autour de ces chansons qui portent ce prénom, appelez dès maintenant le standard 0810 055 056. C'est Yanis qui s'occupe de vous au standard ce soir. Et puis vous l'avez compris, notre grand sujet du soir, c'est Véronique Sanson. On y court. Le réalisateur du film Véronique, qui sort demain en salle, est avec nous. Il s'appelle Tom Wolf. Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Bienvenue dans Décibel.
Merci de m'accueillir.
Vous m'avez fait pleurer. Hein.
Ça c'est un compliment alors. J'ai bien fait mon travail peut-être.
J'ai été invitée à l'avant-première du film, donc Véronique il s'appelle tout simplement. Et c'est d'une beauté, d'une émotion. Vous allez forcément adorer les amis. C'est ce qu'on appelle une sortie en salle événementielle, Tom. Ça veut dire le film est projeté demain, le 7 mars. Il est projeté mardi. Le 10 mars, et ensuite, on verra, c'est ça l'idée. Hein,
voilà, là c'est surtout une occasion unique de le voir au cinéma, sur deux dates uniques et des séances uniques dans à peu près tous les cinémas du réseau CGR et autres. Sur CGR Events, on a tous les cinémas partout en France.
Je suis allée voir vraiment, il y a une centaine de salles partout en France. Vous trouverez forcément une séance pas trop loin de chez vous. Et puis s'il faut faire quelques kilomètres, dites-vous bien que ça vaut la peine, parce que c'est vraiment un très très beau film. Alors, à vos côtés, j'avais envie, Tom, qu'on présente Thomas Harbé. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors, vous êtes à l'INA, le responsable du service création, et vous êtes le producteur de ce film, Véronique.
Exactement.
Alors, l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui fait partie donc de l'audiovisuel public, et je me suis dit qu'en ces temps où justement le public se posait peut-être à juste titre des questions sur l'audiovisuel public, là, le rôle de l'INA dans un film patrimonial comme celui de Tom, un film qui retrace toute la vie, toute la carrière de Véronique Sanson, quel est votre rôle à l'INA?
Alors pour nous, c'était évidemment une évidence parce que Véronique, c'est 50 ans de chansons et d'émotions auprès de tous les Français. Mais en tant que producteur, c'était surtout la rencontre avec Tom et le projet du film qui m'a convaincu dès que j'ai vu la première version du montage, et j'ai dit on a ici une manière de travailler l'archive, de porter un regard sur un parcours, sur une vie, sur un chemin de création que je trouvais extrêmement sensible. Et c'est la rencontre de ces deux sensibilités, celle d'un cinéaste, Tom Wolf, et celle de sa protagoniste, la chanteuse Véronique Sanson.
Alors vous avez dit un mot important, vous avez dit le mot archive. Tom, votre film est composé d'images d'archives. La seule chose, j'allais dire, qui date de 2026, mis à part votre réalisation bien sûr, c'est la voix de Véronique Sanson, puisque de temps en temps on se rend bien compte qu'elle est venue poser sa voix plus récemment, dirons-nous, c'est ça?
Oui, alors d'ailleurs, voilà. Mon travail ne date pas de 2026, mais de 2021, puisque j'ai mis 5 ans à faire ce film, avec beaucoup d'étapes différentes, de création, d'écriture, de production. Et en effet, le film est entièrement composé d'archives. J'ai eu la chance d'avoir accès, d'avoir la confiance de Véronique et d'avoir accès à ses archives personnelles. Et donc, de pouvoir, à travers ce film, présenter beaucoup d'archives inédites.
Ah, il y a plein d'images qu'on n'a jamais vues. Ça rend dingue. Ouais, c'est beau comme tout. Hein.
À la fois des archives personnelles de Véronique, même des extraits de concerts complètement inédits, des enregistrements inédits, des maquettes, enfin des choses vraiment extraordinaires. Et puis, d'avoir pu avoir aussi accès aux archives de l'INA, d'avoir pu trouver à l'INA des archives qui n'avaient jamais été vues ou jamais vues dans la qualité dans laquelle on les présente dans ce film.
Oui, c'est des archives qui sont restaurées, enfin elles sont magnifiques. Hein.
Ouais. Il y a a eu un travail de restauration absolument colossal par Composite Film, Samuel François Steninger, qui a vraiment magnifié les archives pour, en fait, l'idée n'était pas tant de faire un film, quand on parle de film d'archives, parfois on a l'impression qu'on parle de quelque chose de poussiéreux. En fait, là, l'image, elle est magnifique, c'est de la très très haute définition, et on a l'impression surtout qu'on est dans un voyage avec Véronique. Et c'est ça que permet ce côté immersif, c'est en fait d'être au plus près d'elle pendant de nombreuses années et d'avoir... c'est pour ça que j'ai eu la volonté de construire le récit de cette manière, comme vous disiez, sans autre interlocuteur oui. qu'elle-même.
Il n'y a que Véronique Sanson, sa vie, son œuvre, des passages à la télé. Alors là, on dit merci Lina, évidemment, quand on entend un extrait de Discorama, l'émission de Denise Glaser. On est en 1972.
Qui je suis ? Bien, je suis une jeune fille sage qui fait de la musique, qui fait ses paroles et ses musiques et qui les chante.
Une jeune fille sage en 1972 dans l'émission Discorama. Et puis un petit peu plus loin, Denise Glaser a envie d'entendre chanter Véronique, évidemment.
J'aimerais bien que vous me donniez une phrase musicale a cappella comme ça, dans la mesure où vous chantez juste, c'est sans danger.
Que je vous chante quelque chose.
Oui,
là
par exemple Baïa ou un début de. Ça me ferait plaisir d'entendre votre voix sans musique du tout, sans accompagnement.
D'accord, je vous chante le début de Baïa ou le milieu, enfin les paroles, je me souviens. Par exemple, c'est le matin, on ira voir l'eau de Baïa. Comme ça, le vibrato.
J'aimerais bien un petit peu plus long.
Plus long, vibrato.
Parce que je trouve ça joli.
Vous allez me tuer. Je peux pas le faire plus long, la mesure s'arrête.
Ah, mais je ne vous demandais pas une performance technique, je voulais la suite de la chanson.
Oh ben, d'accord.
Ah, juste 20-30 secondes, quoi. S'il vous plaît.
Le matin, on ira voir l'eau de Baïa. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot païen. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas et je t'aime, caresse-moi.
Est-ce que c'est agréable d'entendre chanter juste avec cette décontraction ?
Est-ce que c'est agréable, plus de 50 ans plus tard, d'entendre un extrait de cette émission Discorama, Denise Glaser? On voit ce moment-là au début du film de Tom Wolfe, le film Véronique. Alors là, Lina, évidemment, est à la fois le garant de la conservation de cette archive-là, du fait que les images sont restaurées, le son est plutôt bon, hein, pour un truc qui est passé à la télé il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a un rôle supplémentaire de Lina dans le film de Tom Wolfe, vous avez parlé de producteurs, ça veut dire que vous avez trouvé des financements pour ce film ?
Alors oui, on a effectivement trouvé les financements auprès de France Télévisions, notamment qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés sur le film. Et effectivement, au-delà de la conservation des images, on a parlé de leur restauration et de l'ensemble de travail patrimonial que nous faisons, on a une mission de les faire vivre auprès du plus grand nombre et les faire vivre pour ce qui concerne la production documentaire en accompagnant ce type de projet, en tout cas le projet de Tom qui, bien au-delà d'un portrait d'une chanteuse et pour moi, j'ai l'habitude de le dire, un grand film d'amour sur une amoureuse par un amoureux. Et quand on a ce regard-là sur nos images, ben moi, ça donne totalement sens à nos actions de valorisation au sein de Lina.
Ben bravo et merci Lina et merci d'être passée nous voir Thomas Harbé. Je suis très très contente.
Merci à vous.
Merci. Tom, on reste ensemble parce que c'est avec vrai plaisir. Que c'est un film d'amour. Ça c'est sûr, du début à la fin, l'amour est partout, il se chante, il se voit, il se vit. Et puis là, il s'écoute comme je l'imagine. Ben oui, quand elle n'a pas d'amoureux, elle peut l'imaginer aussi, Véronique Sanson.
Près des gens qui lève et vient le moment où finit mon rêve. Où vit-il? Peut-être dans le sud, dans les villes où le soleil vous brûle. Mais je regarde vers le nord, je regarde vers le sud.
Véronique Sanson, comme je l'imagine. Véronique, le film, c'est demain et mardi, les 7 et 10 mars, dans une centaine de cinémas partout en France. Et petite spécificité pour la projection de demain à Paris, au Grand Rex, Véronique Sanson sera présente, Tom Wolfe.
Oui, ça va être un très très bel événement que de pouvoir être présent au Grand Rex dans cette si belle salle, de présenter ce film.
Avec elle.
Avec elle, sur un grand écran et avec tous les gens qui seront dans la salle. Et on sera en pensée et en cœur synchrone avec tous les cinémas dans toute la France le même soir. Quelque part, on va être unis à travers le moment qu'on va partager avec ce film.
Elle vous soutient, ça c'est évident. Elle était là également à l'avant-première. Et puis de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire un film pareil sans l'accord de l'artiste, sans le soutien actif de l'artiste. Vous nous l'avez dit, Tom, Véronique vous a confié ses archives personnelles. Mais je dois dire que vous avez fait un travail comme j'en ai jamais vu. C'est-à-dire que oui, c'est un documentaire parce que il y a des images, il y a des dates, il y a des moments précis. Voilà, on suit évidemment une chronologie. Mais à la fois, c'est un grand film d'amour. C'est un film qui fait pleurer. C'est un film dans lequel vous avez fait de la dentelle, c'est-à-dire qu'à chaque question qu'on se pose sur Véronique Sanson, vous répondez avec des paroles de chansons qui sont même sous-titrées, des fois qu'on n'aurait pas compris que voilà, tout Sanson en fait est dans ses paroles, elle écrit tout. En fait, elle a déjà tout raconté. Mais vous avez fait ce truc que personne n'avait fait avant vous, c'est de reprendre toutes ces chansons, toutes ces paroles et de tout sortir. C'est 5 ans de boulot, c'est ça ?
5 ans, oui.
Ouais, mais c'est ahurissant. Enfin, bravo, hein. Vraiment, merci, vous êtes trop fort, Tom.
Ça me touche énormément, merci. C'est vrai que c'était le point de départ pour moi. Ces chansons, d'abord, elles nous touchent tous.
On a grandi avec
ces chansons. Ouais. Je crois que si on a vécu la moindre histoire d'amour dans sa vie, on peut qu'être touché par les chansons de Véronique, parce qu'elle a une manière absolument unique de mettre en parole et en musique les amours, les épreuves, les difficultés de la vie, des sentiments. Et donc, c'était pour moi le point de départ. Sauf que j'ai vraiment réalisé à quel point ces chansons parlaient d'elle. Et en fait, à quel point ces chansons étaient complètement, pour la plus grande partie, autobiographiques, si ce n'est quasiment toutes autobiographiques. Et c'est ça que je me suis dit, mais en fait, un film qui raconte sa vie, non seulement par les mots qu'elle dit dans les innombrables entretiens et interviews que j'ai rassemblés un peu comme des pièces d'un puzzle pour en faire une narration, mais avec les chansons qui sont au cœur. Et en fait, le film, je crois, permet de comprendre le lien entre ces chansons et les différents moments de sa vie. En fait, rien n'est hasard. Et ça, je cite une de ses chansons, mais je crois que justement, on comprend pourquoi telle chanson a été écrite à tel moment et à quoi elle fait référence, à quel épisode de sa vie et tout ce vécu qui a été mis en musique au fur et à mesure. Et je crois que c'est ça qui nous bouleverse, en fait. C'est de voir à travers elle le reflet d'une vie de passion, d'une soif de liberté, d'épreuves, de douleurs, et tout ça est transcendé par l'art, par la musique et par quelque chose de plus grand, de plus beau et qui devient universel.
Alors, comme tout est dans ses chansons, comme elle a tout écrit, elle ne nous a rien caché depuis le début, Véronique Sanson. Oui, c'est une amoureuse. Première seconde du premier album.
Je m'endors avec lui.
Et dès le début, on se rend compte que ça va pas être simple.
Mais je sais qu'on nous l'interdit.
En fait, c'est toujours l'amour, mais ça va jamais facilement, ça va jamais dans la facilité ou dans la douceur, hein, finalement. Les passions de Véronique, elles sont intenses. Les histoires d'amour finissent mal, comme dans la chanson d'Erita Mitsuko. En gros, ce dont on ne doutait pas trop, mais dont on en sort vraiment persuadé de votre film, c'est que le grand amour de sa vie, c'est Michel Berger, et qu'elle a passé sa vie à regretter de l'avoir largué en 4 secondes, en disant « je sors acheter des cigarettes » et finalement elle ne revient pas. Et ça, c'est et le grand amour de sa vie et le grand regret de sa vie. Et elle en parle d'album en album, de chanson en chanson, d'année en année.
Et comme elle le dit, sans cela, il n'y aurait pas eu autant de belles chansons magnifiques qu'ils se sont écrits l'un à l'autre et que finalement cette rupture, cette brisure de cœur, comme elle le dit dans le film, est le point de départ d'une façon qu'elle a eu d'exorciser, elle le dit à un autre moment, cette douleur à travers la création, à travers des chansons, à travers les paroles, les mélodies, les musiques. Et donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est à la fois bien sûr une blessure incommensurable, et je pense qu'on le perçoit dans le film au moment où il y a cette bascule, et en même temps ça crée un sort de fil rouge. Pour moi, en tant que réalisateur, j'ai depuis le début vu un peu cet arc narratif, finalement ce point d'entrée et ce point de fin qu'il y a dans la vie de Véronique entre la rencontre avec Michel Berger et sa mort, cette disparition en 92.
Ouais, donc leur séparation, évidemment, a inspiré beaucoup de chansons à Véronique Sanson, enfin Michel Berger aussi. Hein.
Quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là?
Seras-tu là, demande Michel Berger en chanson, et je serai là, répond Véronique Sanson quelques temps plus tard. Il y a une archive absolument bouleversante, c'est le moment où Véronique explique à son fils que Michel Berger est mort et que c'est terrible. Et c'est une archive qui m'a énormément touchée, déjà parce que je ne l'avais jamais vue, et aussi parce que c'est vrai que c'est tellement des icônes de notre musique. Et Véronique Sanson et Michel Berger, qu'on en oublie presque que c'était des humains, et qu'en fait, au moment où il meurt, Véronique Sanson, c'est une humaine qui perd un de ses humains préférés. Je trouve qu'on voit ça dans cette archive.
Oui, je crois que vous l'avez très bien résumé. Bon, sans faire trop de spoilers sur ce qu'on voit dans le film, mais c'est vrai que c'est un moment... c'est un moment d'intimité, c'est un moment qui est filmé chez elle. D'ailleurs, il est enfin, je veux dire, voilà, la caméra est posée là. C'est comme ça nous arrive à tous dans des moments en famille d'avoir un caméscope.
Oui, elle est au piano. Traîne. Enfin, on pense pas du tout qu'il va se passer ça. Quoi.
Voilà, et puis ça avait jamais vocation à être montré. Et à nouveau, je le dois vraiment à la confiance de Véronique, de m'avoir donné accès à l'intégralité de ses archives personnelles et de m'avoir fait confiance sur la manière de juger, de doser ce qui avait vocation à être montré ou pas. Et je crois que j'ai vraiment eu à cœur, Véronique est quelqu'un de très pudique, je pense qu'on le ressent dans le film, c'est-à-dire qu'elle a une façon de parler d'elle dans ses chansons qui est extrêmement profonde, sincère, où elle se dévoile énormément. Et finalement, quand elle parle au micro d'un intervieweur, elle est très pudique sur sa manière de se raconter. Et j'ai eu à cœur de conserver cette pudeur, c'est-à-dire que je voulais faire un film qui soit totalement authentique, où on a vraiment l'impression d'être avec elle, au plus proche d'elle. Je voulais aussi faire un film qui soit à la fois totalement accessible à quelqu'un qui ne connaisse pas ou peu Véronique Sanson et qui puisse la découvrir complètement, et puis en même temps qui, pour ceux qui l'aiment déjà, qui la connaissent déjà, dévoiler des choses qu'ils n'ont jamais vues et peut-être avoir une façon différente de raconter ces histoires. Mais c'est vrai que j'ai eu à cœur de garder une pudeur, et donc voilà, j'ai ce moment-là, il est important, il est touchant, il est révélé, je crois, je l'espère, avec la pudeur qu'exige cette histoire et l'histoire qui les a liés tous les deux. Et voilà, je crois que finalement, l'histoire se raconte merveilleusement à travers avant tout les chansons qu'ils se sont écrites.
Tom Wolfe, Véronique, c'est le nom du film. Avant de continuer à en parler, je vous propose d'écouter Véronique Sanson qui reprend justement une chanson qui lui était adressée. Une chanson de Michel Berger, « Seras-tu là ?» C'est au Zénith en 1993 et c'est sur un des best-of de Véronique qui s'appelle « Les moments importants ». C'est un moment important, ça, qu'elle chante cette chanson-là. Véronique Sanson en parle ce soir dans Décibel avec le réalisateur Tom Wolfe.
«
Seras-tu là, live au Zénith 1993 de Véronique Sanson. Alors si sur cette grande histoire d'amour, vous vous demandez, mais se sont-ils recroisés finalement après? Eh bien vous le saurez en voyant Véronique, le film de Tom Wolfe, puisqu'il a effectivement toutes les archives disponibles, personnelles, et de Véronique Sanson et celles de Lina. Et vous aurez la réponse à cette question-là. Véronique, le film, c'est demain et mardi au cinéma, les 7 et 10 mars, donc dans une centaine de cinémas en France. Vous avez toute la liste des cinémas sur le site CGR Events. Voilà, mais si vous tapez Véronique, le film, voilà, vous tomberez dessus très très facilement. Et on va continuer à parler de notre chère Véronique Sanson avec Tom Wolfe. À tout de suite.
Ici, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibel. Émilie Mazoyer.
Et à suivre dans Décibel, un blind test qui tournera autour des chansons qui portent le prénom Marie, Mary ou Maria. Une jolie chanson d'adieu écrite par Jean Felsine pour son groupe Mustang qui vient donc de s'arrêter. Et puis l'anniversaire de David Gilmour, grand guitariste de Pink Floyd. Tout ça. Et puis aussi des nouvelles de Anton Corbijn. Vous savez, c'est un photographe et un réalisateur qui s'est notamment occupé des plus jolis clips et pochettes de U2 et Depeche Mode. Il sort un bouquin et je voulais vous en parler. Tout ça donc arrive après Tom Wolfe et son beau film Véronique, autour de la vie et de la carrière de Véronique Sanson. Alors après avoir tout exploré, Tom Wolfe, de la vie et de l'œuvre de Véronique Sanson, est-ce que vous trouvez que cette chanson sur ma drôle de vie, c'est une bonne façon de la décrire? Est-ce que c'est une drôle de vie, Sanson?
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Drôle de vie ou pas?
C'est difficile à dire. Au moment où elle écrit cette chanson, c'est une drôle de vie. Il y a une forme de légèreté, une forme de candeur.
Ah, c'est l'innocence,
qui nous
la
touche,
jeunesse.
L'innocence. Ouais. Et puis avec le recul, c'était une vie peut-être pas si drôle que ça. Mais je crois que ça la caractérise aussi, ce recul qu'elle peut avoir sur elle-même. Et aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, voilà, on se dirait, c'était quand même une drôle de vie.
Ouais.
peut-être pas drôle au sens premier du terme,
ouais,
mais c'était
sûr.
Une sacrément drôle de vie que sa vie.
Comment a-t-elle réagi quand elle a vu le film?
Ça a été un moment important pour moi.
Je me doute.
Je pense que je ressens encore les sueurs froides que j'ai eues en lui montrant la première version du montage, qui était tardive. Hein, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée pour la première fois en 2021, grâce à Laurent Calu, qui avait coécrit ce magnifique livre avec Yann Morvan, Les années américaines, et qui m'a beaucoup aidé, notamment à trier, à ressortir toutes les archives qu'il y avait chez Véronique, à trier le sur scène. Et bon, ça a pris déjà 3 ans pour faire ce long chemin, un peu un chemin de croix parfois pour moi, ouais. Que de faire ce film. Et une première version du montage, en fait, je n'aurais pas pu commencer le film sans avoir sa bénédiction. Et je ne pouvais pas évidemment avancer sans être convaincu que j'allais dans la bonne direction et que j'avais fait un travail honorable. Mais en même temps, je ne pouvais pas lui montrer quelque chose d'intermédiaire. Donc il m'a fallu arriver à quelque chose qui ressemblait un peu au film tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas qui en avait l'ossature. Et donc, c'était dans une petite salle. Je voulais absolument qu'elle le voie sur grand écran.
Ah oui, pas chez elle, sur un téléphone. Il fallait.
Absolument pas.
Ouais,
d'abord
cinéma.
Parce que j'avais pensé le film pour le cinéma depuis le premier jour. Je voulais qu'on puisse découvrir Véronique sur grand écran, qu'on ait cette immersion dans une salle plongée dans le noir, avec un son tout autour de soi. Et puis, cette proximité que le cinéma offre. Que j'avais déjà expérimenté avec mon premier film,
sur
Maria Bacalas.
Ouais.
Et c'est vrai que la salle de cinéma offre vraiment cet écrin d'intimité. Et puis c'est une plongée, sur un grand écran. Et donc, je voulais montrer le film à Véronique sur grand écran. Et donc, c'est dans une petite salle de cinéma privatisée pour l'occasion qu'elle a découvert la première version du montage. Et bon, ça a été un moment extrêmement intense pour moi, émotionnellement. Mais elle a tout de suite aimé. Elle a tout de suite aimé. C'était un immense soulagement quand la salle s'est rallumée, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit cette chose qui m'a bouleversée. J'ose pas par pudeur la dire, mais
ah s'il vous plaît.
Elle m'a dit tu as tout compris. Et ça, c'est le plus grand compliment que j'aurais pu espérer d'elle, parce que, voilà, quelque part, ce chemin que j'avais fait avec ce film, qui était parti de rien, d'une idée, et puis d'un amour, vraiment, que je lui portais à elle, à sa musique, l'envie de transmettre ça à d'autres, l'envie de faire découvrir à d'autres ce que moi j'avais découvert, ce qui m'avait tellement touché, et puis de faire ce lien entre cette vie quand même incroyable et ces chansons merveilleuses.
Oui. Les paroles, je le répète, mais vous avez fait un boulot que personne n'avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout ce que Véronique Sanson n'a pas dit en interview sur, par exemple, la violence de Stephen Stills, son mari américain, sur ses regrets et aussi sur ses amours, voilà, des choses plus lumineuses. Tout ce qu'elle n'a pas dit, de toute façon, elle l'a chanté, elle l'a écrit. Et vous avez fait ce travail-là. Et donc, oui, je pense qu'elle a raison, vous avez tout compris, tout compris. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute un petit extrait du film ?
Avec plaisir.
C'est le moment où Véronique parle de sa maman.
Ma mère, c'est une fée. J'ai jamais rencontré quelqu'un de plus extraordinaire dans ma vie. Elle est étonnante, elle est époustouflante de gentillesse. S'il y a une personne au monde à qui je peux vraiment parler et qui ne me jugera pas, c'est ma mère.
C'est beau ça aussi, et puis il y a des images d'archives avec la maman.
Oui, il y a surtout ces images magnifiques, c'est des super 8 de famille qu'on a retrouvées, qu'on a vraiment numérisé la pellicule, et en fait on montre dans le film, c'est vraiment la pellicule de ces films de famille, et c'est tellement touchant de voir Véronique dans son enfance, son adolescence, on la voit grandir comme ça, c'est le début du film, et c'est très touchant.
Et c'est une belle artiste, vraiment dans tous les sens du terme. Vous allez adorer ce film demain le 7 mars et mardi le 10 mars dans une centaine de cinémas en France, et si vous avez l'occasion de voir le film à Paris au Grand Rex, sachez que Véronique Sanson sera aux côtés de Tom Wolfe pour vous présenter ce film Véronique, à voir donc au cinéma avec la participation de l'INA et de France Télé, donc voilà le service public. Vous avez fait le tour là, vous passez par la radio ce soir, Tom.
Oui, je rends grâce au service public, parce que bon, sans rentrer dans les détails de la longue aventure de production de ce film.
C'était pas
fastoche du tout, et ouais. Ce film n'existerait pas sans l'INA et sans France Télévisions, et en plus ils lui permettent de sortir en salle, alors ça c'est vraiment merveilleux, je suis très reconnaissant.
Vive le cinéma, vive Véronique Sanson, et merci beaucoup Tom.
Merci à vous de votre accueil et de tout ce que
bientôt.
Vous avez dit.
Après Calas et Véronique, je sais pas qui sera votre numéro 3, mais je vous garde à l'œil. Hein. Merci Tom, à bientôt.
Merci à vous.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibels.
Musique toujours, mais on change d'ambiance. Maintenant, je voulais vous parler d'Anton Corbijn. C'est un réalisateur et un photographe hollandais. C'est le roi du noir et blanc. Il fait des portraits en noir et blanc absolument sublimes. Et c'est lui, donc, qui a réalisé les plus beaux clips et les plus belles pochettes de U2 et de Depeche Mode. Et donc, ce Anton Corbijn célèbre ses 50 ans de carrière avec un très, très beau livre rétrospective. Je vous le recommande chaudement. Il s'appelle, tout simplement comme lui, Corbijn. Anton, 562 pages, j'ai pesé, ça fait 4 kilos de rock'n'roll. C'est disponible aux éditions Hannibal et c'est évidemment indispensable. We'll be right back. Une des chansons emblématiques de la fin des années 80. On a bien coupé l'outro comme des cochons, mais on est comme ça, nous. On n'a plus le temps. Non, normalement, à la fin, ça fait un peu pshh. Voilà, mais bon, il n'y a pas le pshh. Mais c'est pas grave, si vous voulez le pshh, eh ben, allez voir le clip de Personal Jesus de Depeche Mode, une des chansons emblématiques sur un album emblématique de la fin des années 80, début des années 90, c'est Violator.
Ici, tous les soirs à 20h, c'est Décibel.
Si nous jouions au blind test, maintenant avec Asdine et Daniel. Bonsoir à tous les deux.
Salut Émilie, comment vas-tu?
Bonsoir. Ben, ça va très très bien. Mais alors, qui m'appelle Maz? Normalement, c'est Nico qui m'appelle Maz.
Ah bon,
Alors, vous êtes combien à parler en même temps exactement? Je ne comprends pas ce qui se passe.
Moi je t'ai appelé Émilie, c'est Asdine.
Asdine m'a appelé Émilie. Alors, c'est Daniel qui m'a appelé Maz. Et en fait, j'ai un auditeur qui s'appelle Nico.
Maz.
Et qui régulièrement m'appelle Maz. Donc, j'ai cru que c'était Nico. Voilà.
La Mazouaille.
Ouais, c'est ça. Appelez-moi comme vous voulez, du moment qu'on peut jouer. Asdine et Daniel au blind test ce soir. Sur le thème donc de Marie. Mary, Maria, tout un tas de façons de parler du même prénom. Et plein de chansons qu'il va falloir retrouver.
La chanteuse du groupe Roxette.
La chanteuse du groupe Roxette, elle s'appelait Marie?
Oui.
Ah bon?
Eh oui, 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 tu chercheras, chère Émilie.
Ah bah oui, oui, non, moi je te fais confiance. Mais je sais qu'elle est morte en plus, il n'y a pas longtemps, ça m'avait fait de la peine.
Alors là, du coup, pour le coup, j'étais même pas au courant.
Ouais, elle est morte en 2019, Marie Frédériksen. Bah, tu vois, j'avais oublié son nom.
Ah ben voilà, tu vois.
Voilà, bon, ben merci. On s'est rappelé d'elle. Alors, il y a trois Marie, Mary, Maria à retrouver ce soir dans le Blind Test. Il va falloir retrouver les interprètes de ces chansons le plus rapidement possible. Ça, je compte sur vous.
Essayez.
Et puis, à la fin, tout le monde gagne. Et comme on est vendredi, vous gagnez un cadeau surprise.
C'est bien les surprises.
C'est choisi par moi, donc c'est un cadeau surprise qui fait plaisir normalement, ok?
Bon, il n'y a pas de raison de toute façon.
Une perruque rousse, t'imagines le cadeau horrible? Une part de quichoton.
Dédicacé de ici, c'est bien. De décibels, c'est bien.
Pourquoi dédicacé d'Émilie, c'est encore mieux.
Oui, mais oui.
Exactement.
Allez, je vous envoie une première chanson qui parle d'une Marie. Et il faut retrouver le plus rapidement possible le nom de l'interprète. Messieurs, Daniel et Asdine, n'oubliez pas de donner votre prénom avant de donner la réponse.
Ça marche. Asdine.
Daniel.
Asdine.
Francis Cabrel,
petite
Marie.
Petite Marie, je t'attends en transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide.
Petite Marie, c'est Francis Cabrel et c'est le premier point d'Asdine qui a dégainé un petit peu plus rapidement que Daniel. Deuxième chanson.
Allez, Daniel.
Deuxième Marie.
Ouais, ça va le faire.
Asdine.
Asdine.
Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer.
Oh Marie, chantait Johnny Hallyday
en 2002.
Oh là là, mais c'est des puits de science ce soir, mes candidats.
Il va piquer ma place, Émilie, fais gaffe.
Mais c'est ça, attends, faut que je m'accroche. Je m'accroche au micro. Après Johnny Hallyday et Francis Cabrel, on va changer d'ambiance un petit peu, messieurs.
Allez.
Passons à une Mary cette fois-ci. Vous êtes très forts tous les deux. Après, c'est une question de rapidité, mais je vois bien
oui,
que...
Oui, c'est ça. Oui, oui, là, je me suis embrouillé. J'ai pas dit mon nom. J'ai donné...
Ben oui. Alors, Daniel.
Ah, quelle voix, Daniel.
Et Daniel, il a une voix de radio de ouf.
Ah ouais, une voix de radio, Daniel.
C'est ce qu'on me dit. Non, mais c'est ce que Laurent Petit-Guillaume m'a dit une fois. Il me dit, il était bluffé.
Ah bah voilà, et il s'y connaît.
Alors là, Laurent te le dit, c'est vrai.
Il voulait m'embaucher aussi.
C'est certifié.
Allez, troisième Marie.
Alors attends, c'est Asdine.
Asdine.
Est-ce que ce serait pas Jimi Hendrix?
Ouais!
Je l'avais pas. Félicitations, Asdine.
The wind.
Ah, merci Daniel.
Cries.
De toute façon, on a gagné
Mary.
Tous les deux, hein, donc tu sais.
Oui, exactement.
Il n'y a pas de perdant ici, c'est comme à la fête foraine.
Moi, c'est j'ai... génial.
J'y tiens. Ah, bah,
là,
tiens, voilà.
Qu'est-ce que tu nous fais?
Tu dis quoi, Asdine?
Ouais, Émilie, quand est-ce que tu nous fais un blind test spécial The Strokes?
Oh, c'est mon groupe américain préféré,
mais
ça.
Oui, je sais.
Oui, mais alors je si sais. Je mets que des chansons des Strokes, bah du coup la réponse c'est The Strokes, donc il y a pas beaucoup de suspense.
Ah oui, mais bon, ils ont fait plusieurs titres.
Oui, c'est vrai. Mais je pourrais faire ça, voilà. Je pourrais. En tout cas, vous les passer un de ces soirs. Merci Asdine de parler d'eux. Ça me fait
de
très
rien,
plaisir.
Émilie.
Merci.
Fidèle depuis des années.
Ah bah j'entends ça. Alors plein de bisous à tous les deux, Daniel et Asdine et. Le cadeau surprise sera peut-être une pomme d'amour, comme à la fête foraine. Retrouvons Maria maintenant, de Carlos Santana. Woman de Carlos Santana. Vous avez bien choisi votre journée pour écouter ici. J'ai un bon plan pour vous. Tout à l'heure à 22h30 sur Arte débute une grande soirée autour de Carlos Santana. À 22h30, donc, c'est le documentaire L'Odyssée Santana, suivi de son concert à Jazz in Montreux en 2011. Régalade, donc, rendez-vous un petit peu plus tard ce soir sur Arte.
Ici avec Émilie Mazoyer, c'est Décibel.
Jean Felzine était le chanteur de Mustang depuis 20 ans. Mustang, ils ont sorti 5 albums, assez rock années 50, chansons françaises, un peu de boucle électro aussi, des reprises très intéressantes. Bref, plein de belles choses chez Mustang ces 20 dernières années. Mais Mustang, c'est fini. Et Jean Felzine, qui en était le chanteur, mais aussi le principal auteur et compositeur, a décidé d'écrire une lettre d'au revoir à son groupe. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle Adieu, pour celles et ceux qui ont aimé Mustang, et même juste pour ceux qui aiment les belles voix et les jolies guitares. Voici Jean Felzine.
Adieu, à part des cernes sous les yeux, je me demande bien ce que je vous ai donné. Adieu, je faisais pourtant de mon mieux. Faut croire que c'était trop peu pour être pardonné. Adieu. Quand j'avance enfin un peu, je me vautre. Adieu. Chacun sa croix, je ne peux pas porter la vôtre. Perdu ce qui est précieux, tous mes amis c'est malheureux, et j'ai gagné quoi? Adieu, la défaite c'est contagieux, partez vite c'est dangereux, ou vous finirez comme moi. Adieu. Sur ce chemin sinueux, tout est de ma faute. Adieu. Chacun sa croix, je ne peux pas porter la vôtre. Repensez-y un matin à cette drôle de période. Chose de glorieux dans le petit cirque miteux que nous promenions. Adieu, je me suis pris trop au sérieux, tout me paraît bien mystérieux sans mes compagnons.
Dans ses compagnons, ouais, de Mustang, Jean Felzine est en solo. Alors, il a déjà sorti des albums solo, aussi d'excellents disques avec une chanteuse suédoise qui s'appelle Jo Wedin. Ils ont fait 2 albums ensemble, Jo Wedin et Jean Felzine. Donc voilà, c'est pas nouveau pour lui d'être en solo, c'est nouveau pour lui en revanche que Mustang n'existe plus. Donc bonne route à Jean Felzine et on surveillera évidemment ses toutes prochaines sorties pour vous les faire partager parce que c'est un artiste qu'on aime beaucoup, qui écrit aussi pour d'autres artistes, qui a écrit pour Pomme, pour Camélia Jordana. Voilà, c'est un garçon hyper intéressant, hyper talentueux et on continuera à le suivre.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
Mon Dieu, David Gilmour a 80 ans aujourd'hui. Ah oui, ça doit mettre un coup de vieux à certaines et certains d'entre vous, je le sais. Moi-même, je me dis, waouh, David Gilmour a 80 ans. C'est-à-dire, quand on regarde les images d'archives, on parlait de Lina tout à l'heure avec Tom Wolfe et son film sur Véronique Sanson. Il y a des archives de David Gilmour, fin des années 60, début des années 70. Il parle parfaitement français. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une interview de Pink Floyd... par un journaliste français, c'est lui qui répond. La beauté beauté, le talent de David Gilmour, c'est absolument incroyable. Alors, c'est un des emblématiques de Pink Floyd, David Gilmour, et j'avais envie ce soir, pour son anniversaire, qu'on écoute une chanson qui s'appelle Comfortably Numb, qui est sur l'album The Wall, qui n'est pas un des moments les plus joyeux du film The Wall, mais bon, écoutez, ça fait partie de l'esthétique Pink Floyd, c'est un peu la DA de l'histoire. Comfortably Numb, elle passe pas souvent à la radio parce qu'elle est très longue, mais elle est si belle. Je vous propose que l'on s'y plonge ensemble. Et bon anniversaire à ce génie, David Gilmour.
Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. Get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts?
There is no pain you are receding. A distant ship's moving. Just like two.
sans doute une des dernières fois où Roger Waters et moi avons travaillé de manière constructive, dit David Gilmour à propos de cette chanson sublime, Comfortably Numb, sur l'album The Wall. Et écoutez, après, bon, bah, ils sont toujours très très fâchés, hein, ces deux-là, mais je ne sais pas si Roger Waters va envoyer une petite carte pour les 80 ans de David Gilmour, mais nous, oui, voilà, on lui souhaite un bon anniversaire. Merci à l'équipe de Décibel qui était avec moi ce vendredi soir, Iris Guitoni, Elorie Roussillon, Enzo d'Hospital, Nicolas Bonzon, Yanis Kalem et Franck Moilier. Et bon week-end !